Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un webchat, utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Et ainsi retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 2 juillet 2019, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Houchet, délégué général de l'April. Le site web de l'April est april.org et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter pour nous faire des retours, pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme de l'émission. Émission un peu spéciale constituée de sujets courts, chroniques et une interview. Nous aurons successivement la chronique In Code We Trust de Noémie Berger sur le Règlement Général sur la Protection des Données, le RGPD. La chronique Le Libre fait sa com d'Isabelle Avani pour le projet Bénévalibre. Libre. La chronique Partagé est bon de Véronique Bonnet sur le thème En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre. Une interview d'Antoine Bardelli sur son expérience professionnelle sur les outils libres pour l'image. Et enfin, la seconde partie très attendue, la chronique Jouons collectif de Vincent Calam sur la migration vers le logiciel de la FPH. Nous saurons si la quête de la Sainte Liberté a réussi à la FPH. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Guenu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors bien sûr, vous proposez un petit quiz comme chaque émission. Je vous donnerai les réponses en cours d'émission. Vous pouvez proposer des réponses sur le salon web de la radio, sur les réseaux sociaux que nous fréquentons. Alors première question. Lors de l'émission du 25 juin, nous avons parlé de bureautique libre de LibreOffice. La question est, comment s'appelle l'association francophone de promotion et de défense de la bureautique libre et notamment de LibreOffice? Deuxième question. En mai 2019, le 7 mai, Isabelle Avani a interviewé Antoine Bardelli, qui sera réinterviewé aujourd'hui, sur la genèse d'un projet de sensibilisation de l'April. Quel est cet outil de communication? Je vous aide, il est constitué de panneaux. 8 panneaux actuellement. Bon, tout de suite, place au premier sujet. Évoquer le code à la main, une règle de droit, ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies. C'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'Une. Bonjour Noémie.
Bonjour Fred.
Alors, le sujet du jour, c'est le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données.
Effectivement, nous allons revenir un peu sur les grandes notions du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, donc le RGPD. Nous avions évoqué lors d'une précédente chronique un certain nombre d'éléments sur ce règlement et il me semblait intéressant d'approfondir certaines notions et notamment de revoir un peu les définitions qui sont contenues dans le règlement. Parce que le règlement comporte 26 définitions, donc des définitions qui concernent l'objet, des définitions qui concernent les acteurs et des définitions qui concernent les conditions du traitement. Donc sur l'objet, ce règlement, il porte sur les données à caractère personnel. Donc on trouve évidemment une définition dans le RGPD de la donnée à caractère personnel, ou autre terme pour désigner ces données, ce sont les données personnelles. Donc toutes ces données, ce sont des informations qui se rapportent à une personne physique, donc à l'inverse d'une personne morale, qui sont identifiées ou identifiables. Ça peut être identification directe ou indirecte, notamment par référence à un identifiant, un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à l'identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Donc une définition extrêmement large. On va trouver de manière assez classique dans les données à caractère personnel, le nom, le prénom, la photographie, l'empreinte, une adresse postale, une adresse mail, puisque dès lors que l'adresse mail comporte un nom qui permet d'identifier une personne physique, on est en présence d'une donnée à caractère personnel, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, mais également une adresse IP. Donc ça, c'est un point qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'en France, il y avait eu un débat pour savoir si l'adresse IP était ou non une donnée à caractère personnel, et la Cour de cassation avait tranché. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus de discussion possible. Au sein des données à caractère personnel, le RGPD va diviser certaines données qui sont un peu spécifiques. On va avoir des données génétiques, des données biométriques, et des données concernant la santé. Donc ces trois sous-catégories de données, elles ont en elles-mêmes des caractéristiques spécifiques qui font qu'elles sont intégrées dans la définition des données à caractère personnel, mais elles ont parfois une réglementation propre. Donc on va avoir les données génétiques qui sont des données relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique, et en fait elles donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé d'une personne physique. Et notamment, elle résulte d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question. On va avoir les données biométriques, qui, elles, sont des données qui résultent d'un traitement technique spécifique relative aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique. Et donc, elles permettent ou confirment son identification unique. Donc, l'exemple des données à caractère personnel biométrique, ça va être, par exemple, les empreintes digitales. Elles ont comme particularité d'être uniques et permanentes. Et on a, troisième sous-catégorie, les données qui concernent la santé. Donc là, on va avoir dans cette catégorie toutes les données qui sont relatives à la santé physique, mais également mentale d'une personne physique. Et il faut noter également que ça concerne aussi les prestations de services de soins de santé qui peuvent révéler des informations sur l'état de santé d'une personne. Donc l'objet du règlement, il est bien défini dans le cadre de la donnée à caractère personnel. Après, se pose la question de comment encadre-t-on le traitement de ces données à caractère personnel, et donc c'est tout l'objet du RGPD. Le traitement d'une donnée à caractère personnel est lui aussi défini. C'est toute opération, tout ensemble d'opérations qui sont effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés. Et donc, on a par exemple la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'extraction, la consultation. C'est une définition qui est extrêmement large, le traitement est extrêmement large. En réalité, toute opération qui part de la collecte jusqu'à l'effacement ou la destruction de la donnée est une opération de traitement. On a également une définition dans le RGPD du fichier. Donc un fichier, c'est un ensemble structuré de données à caractère personnel. On a, autre aspect du RGPD, des définitions qui concernent les personnes, les acteurs même de ces traitements. Donc en tout premier lieu, je dirais la personne principale, c'est celle qu'on désigne comme étant la personne concernée. Les personnes concernées, ce sont celles dont les données à caractère personnel sont traitées. Ensuite va venir ce qu'on appelle le responsable du traitement. Donc le responsable du traitement, c'est la personne physique ou morale qui va en fait déterminer les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Généralement, quand on parle de responsable du traitement, on évoque aussi la notion de sous-traitant. Donc le sous-traitant, à l'inverse du responsable du traitement, c'est celui qui va traiter des données à caractère personnel pour le compte d'un responsable du traitement. Donc on a vraiment cette relation de sous-traitance, et le RGPD prévoit que cette relation-là doit être encadrée. On a un troisième acteur, c'est le destinataire. Donc c'est tout simplement la personne physique ou morale qui va recevoir communication des données à caractère personnel. On a aussi une notion qui est définie dans le RGPD, c'est le tiers. Alors c'est vrai que parfois les distinctions ne sont pas évidentes entre destinataire, tiers. En réalité, le tiers, c'est la personne physique ou morale qui est autorisée à traiter les données à caractère personnel qu'il va recevoir de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant. Donc à la différence en fait du destinataire, c'est que là c'est vraiment dans le cadre de la relation qu'il va avoir sous l'autorité directe du responsable du traitement, donc ça va vraiment être en lien avec soit le responsable du traitement, soit le sous-traitant. Et enfin on a un autre acteur qui est défini dans le RGPD, c'est l'autorité de contrôle. Donc cette autorité de contrôle, elle est dans chaque État membre, c'est-à-dire que chacun des pays de l'Union européenne a désigné une autorité de contrôle. En France, notre autorité de contrôle, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc c'est l'autorité qui va avoir un certain nombre de compétences pour surveiller, pour contrôler, pour apporter des informations dans cette matière. Et on a enfin un troisième acteur qui n'est pas défini tel quel dans le RGPD, mais qui a une grande importance dans cette matière, c'est le délégué à la protection des données, le Data Protection Officer, le DPO, dont le statut est réglementé à l'article 37. Et c'est vrai que le délégué à la protection des données, on en entend beaucoup parler, puisque c'est vraiment l'une des nouveautés du RGPD. Avant, en France, on avait les correspondants informatiques et libertés, mais là, le délégué à la protection des données, le RGPD, lui confie un véritable statut avec des missions très importantes. Donc généralement, on désigne un délégué à la protection des données sur la base de ses qualités professionnelles et en particulier de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données et de sa capacité à accomplir ses missions. Le délégué à la protection des données peut être soit un membre du personnel du responsable du traitement ou du sous-traitant. Donc il est rattaché soit au responsable du traitement ou du sous-traitant. Et généralement, il peut aussi exercer ses missions sur la base d'un contrat de service. Donc on peut tout à fait faire appel à une société pour un cabinet d'avocats, par exemple, pour faire pour exercer les missions d'un délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données doit être déclaré auprès de la CNIL. Hein, donc c'est toujours un peu les mêmes acteurs qui reviennent. Ces acteurs-là, donc, généralement, on trouve beaucoup d'éléments de définition, d'explication sur le site de la CNIL pour bien comprendre en fait quel est un peu le rôle de chacun. Il est important de ne pas se tromper et de savoir que lorsqu'on agit de telle façon sur des données à caractère personnel, on est responsable du traitement ou nous sommes sous-traitants, et de bien veiller à ce que on a désigné un délégué à la protection des données lorsque c'est nécessaire, parce qu'encore une fois, il y a 3 conditions hein, pour qu'un délégué à la protection des données soit désigné. Soit on se trouve dans le cadre d'un traitement qui est opéré par une autorité publique, soit les activités du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui sont, de par leur nature, de leur portée, de leur finalité, elles vont exiger un suivi régulier, systématique, à grande échelle des personnes concernées, donc ça justifie qu'on ait quelqu'un de compétent qui s'occupe de ce sujet. Ou alors, troisième condition, les activités du responsable du traitement ou du sous-traitant vont consister en des traitements à grande échelle de catégories particulières de données, donc c'est par exemple des données ou des données d'infraction, des données sensibles. Ce sont ces 3 conditions qui imposent la désignation d'un délégué à la protection des données. Évidemment, c'est facultatif dans les autres cas, mais rien n'oblige une société qui ne répondrait pas à ces critères de désigner un délégué à la protection des données. Il existe enfin une troisième catégorie de définitions qui vont concerner en fait toutes les conditions du traitement. Donc on va avoir par exemple une définition du consentement de la personne concernée, on va avoir des définitions sur le profilage, sur la pseudonymisation, qui sont vraiment très précisément définies dans le RGPD. On a aussi également une définition de la violation de données à caractère personnel. Donc là, c'est une violation de sécurité qui entraîne de manière accidentelle ou illicite une destruction, une perte, une altération, une divulgation non autorisée de données à caractère personnel. Et enfin, on a la définition, alors c'est une définition, on va dire, indirecte, mais en tout cas, c'est le RGPD qui instaure cette nouvelle notion de la tenue d'un registre, donc par le responsable du traitement ou le sous-traitant. Ces personnes ont, dans certains cas, l'obligation de tenir un registre. Donc il existe un modèle qui est disponible sur le site de la CNIL. Dans ce registre, on intègre un certain nombre d'informations, notamment des informations sur le responsable du traitement ou le sous-traitant, sur la finalité du traitement, la description des catégories de personnes, tout ce qui va concerner en fait le traitement lui-même et les données des personnes qui sont visées par ce traitement. Donc le registre, il n'est obligatoire que pour les sociétés de plus de 250 employés, sauf si dans les sociétés de moins de 250 employés, le traitement qui est opéré est susceptible de comporter un risque pour les droits des personnes concernées, s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte sur des catégories particulières, comme on l'a vu, donc des condamnations, des données sensibles. Voilà, donc c'est un peu les grandes notions qui sont définies dans le RGPD, qui aujourd'hui, la protection des données est une matière à part entière qu'il ne faut pas délaisser et qu'il est important de maîtriser.
Eh bien, merci Noémie. On va repréciser, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que ce RGPD s'applique à tout le monde, en fait, et pas simplement aux grandes entreprises, contrairement à ce qu'on pense. Hein, le responsable du traitement, ça peut être une entreprise, une association, une collectivité. Donc n'hésitez pas à vous renseigner à la fois sur le site de la CNIL. Il y a aussi des transcriptions qui ont été faites récemment de conférences dans lesquelles on abordait le RGPD, donc sur april.org. Et si vous avez besoin, comme dit, vous pouvez vous rapprocher de professionnels. Et je vais faire un peu de pub, notamment évidemment le cabinet dune.fr ou Noémie Berger, donc, qui est notamment spécialiste du RGPD. Ben, merci Noémie, bonne journée.
Merci Fred.
Et je te souhaite éventuellement un bel été aussi, parce qu'on se retrouvera qu'à la rentrée.
Également.
Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter A Foolish Game par Snowflake.
Cause commune, cause-commune.fm
93.1. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. Sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple
whole equation, burning closed system, natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation, waste and shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game.
Nous venons d'écouter A Foolish Game par Snowflake, musique disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons maintenant changer de sujet. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April, annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements. C'est la chronique Le Libre fait sa com de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bonjour Isabella.
Bonjour.
Alors la chronique du jour est consacrée au projet Bénévat Libre, avec notamment l'interview donc téléphonique de François Poulain qui travaille pour la société CLIS 21. C'est à vous.
Oui, bonjour. Est-ce que François est en ligne?
Oui, je t'entends parfaitement.
Super. Donc aujourd'hui, j'ai souhaité parler du projet Bénévat Libre. Je crois qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'en parler à l'émission Libre à vous. Donc c'est un projet de développement logiciel, logiciel libre. Et c'est un projet dont l'April en fait est partenaire, partenaire opérationnel. C'est un projet qui est porté par un comité régional d'associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et en fait, c'est un logiciel dont le but du projet, c'est de développer un logiciel libre qui facilite la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations et en particulier dans des très petites associations qui n'ont pas forcément de compétences informatiques en interne. Et c'est un projet qui, à l'origine, voit, à l'origine du projet, il y a un collectif d'associations. En fait, c'est, si on veut, c'est un logiciel qui est voulu par des associations et fait pour des associations. Et aujourd'hui, on a avec nous, en fait, François Poulain, qui est développeur de ce logiciel pour la société CLIS 21. Et donc, on va voir avec lui un peu plus en détail en quoi consiste ce logiciel. Déjà, CLIS 21, c'est une SCIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement ce qui caractérise une SCIC?
Alors, ce qui caractérise une SCIC, c'est une coopérative, mais elle a la particularité de faire du sociétariat multiple. si vous voulez. Quand on est une association, par exemple, une association, c'est un objet d'intérêt général, mais elle n'associe pas les salariés au CA en général. Les administrateurs, les dirigeants de l'association, en général, sont bénévoles. Dans le cas des coopératives classiques, en général, les gens qui dirigent l'entreprise, ce sont les salariés, uniquement les salariés. Et la CIC, ça offre une forme un peu hybride, entre un mi-chemin entre l'association et la coopérative, qui permet d'associer, par exemple, autour de la direction de l'association, des bénévoles, des salariés, éventuellement des partenaires. Ça peut être des gens qui sont intéressés, par exemple, si la CIC elle a une activité sur le territoire, ça peut être des élus du territoire qui sont intéressés. Alors, on peut avoir des bénéficiaires autour du conseil d'administration. Donc nous, dans le cas particulier de CLIS 21, on mélange à la direction, on mélange des bénévoles, des salariés, des bénéficiaires, des usagers de nos services.
Voilà, j'ai posé cette question parce que, comme j'ai dit, c'est un projet qui a été voulu par des associations et fait pour des associations. Mais le choix aussi de CLIS 21 a du sens dans cette démarche, du fait de votre gouvernance, justement. Donc, on peut aller un peu plus en détail sur le projet en question, donc sur ce logiciel. Quelles sont les principales fonctionnalités qui propose le logiciel Bénévalibre Libre?
Eh bien, l'idée aujourd'hui, c'est de permettre aux associations de collecter les actions de bénévolat pour pouvoir les mesurer. Et ensuite, éventuellement les valoriser ou à faire des statistiques, etc. Nous, ce qu'on a mis en avant, c'est la simplicité d'usage. Il faut que librement, spontanément, quelqu'un puisse enregistrer une association sans passer par un parcours administratif compliqué. Et de la même façon, il faut que quelqu'un puisse, par exemple, voir les associations sur la plateforme et s'engager pour une association et déclarer du bénévolat pour l'association, sans, pareil, avoir à passer un parcours administratif compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le plus de simplicité possible au niveau de ces détails-là. Donc ça, c'est une des raisons qui a conduit en fait au développement d'une application spécifique, plutôt qu'à essayer de tordre un petit peu un logiciel qui aurait fait l'affaire. Parce que le point vraiment très important du cahier des charges, c'est de rendre les choses aussi simples que, par exemple, remplir un sondage Framadat, ou que, par exemple, de créer un pad sur Framadat, quoi. L'idée, c'est vraiment de réduire le plus possible le coût d'engagement pour pas que ce genre de choses soit vécu comme un truc administratif en plus sur la charge des gens. L'idée, c'est plutôt d'essayer de rendre service aux gens et de rendre service aux organisations.
C'est très bien résumé. En fait, comme tu dis, le défi est de proposer un outil très simple d'utilisation, presque aussi simple que le papier et le crayon, parce que la plupart des petites associations, quand ils souhaitent collecter et noter les heures de bénévolat, ils sont au papier ou au crayon, donc ça permet pas, par exemple, de traiter les données, justement, de faire des statistiques, etc. Et il doit pouvoir être utilisé aussi par des bénévoles qui sont pas forcément à l'aise avec les outils informatiques. Donc c'était vraiment, comme tu disais, dans le cahier des charges, c'était un point fondamental. Et donc moi, personnellement, je fais partie du copil du projet. J'ai testé l'application et je peux témoigner du fait qu'elle est effectivement très simple et très intuitive à utiliser.
Le copil, c'est le comité de pilotage.
Comité de pilotage. Merci. Oui. Sous quelle licence sera diffusé ce logiciel? Parce qu'on sait que ce sera un logiciel libre, mais est-ce qu'il y a une licence spécifique qui a été choisie?
Nous, en fait, on n'a pas vraiment effectué ce choix. Peut-être qu'il faudrait qu'on en discute. Mais par défaut, tous nos logiciels, en fait, sont en licence FerroGPL version 3 ultérieure. Donc actuellement, le logiciel, on va dire sur la plateforme de développement, il est divulgué sur cette licence-là.
Et c'est quoi la particularité de cette licence par rapport à une licence libre comme la GNU GPL, pour parler d'une licence libre classique utilisée?
La FerroGPL, c'est une version, on va dire, un petit peu dérivée de la GNU GPL. Donc elle intègre à peu près toutes les clauses de la GNU GPL en termes de liberté et de réciprocité. Par contre, elle intègre une petite particularité supplémentaire, c'est que en termes de réciprocité, si on a des usagers qui sont, par le biais d'un réseau utilisateur de l'application, ils doivent pouvoir accéder aux sources de l'application. Quand on parle de services en ligne, la GPL, elle a un petit peu... Elle date d'un contexte... le contexte dans lequel elle a été écrite, elle date un peu. Et elle a un petit peu un petit trou en termes de réciprocité, c'est qu'elle permet tout à fait aux gens de prendre un programme sous GPL, d'offrir un service en ligne et de ne pas diffuser le logiciel du service qui est offert. Donc c'est ce trou-là, on va dire, qui essaye de résoudre l'affaire OGPL, qui existe depuis au moins 10 ans. Moi, je la connais depuis au moins 10 ans. Sachant que c'est pas parfait, il y a probablement des trous juridiques qui existent dans la solution mise en œuvre, mais c'est à ce jour la meilleure licence qu'on connaisse sur ce sujet-là.
Si je peux reformuler, tu me diras si c'est exact, ça veut dire que n'importe qui, particulier, structure, etc., peut répondre le logiciel, ce service, peut créer, peut le héberger sur son serveur, donc créer une instance, comme on dit, peut faire des modifications, mais elle aura l'obligation de rendre visibles ces modifications. Donc n'importe qui pourra voir quelles sont les contributions qu'elle a faites sur le logiciel. Est-ce que c'est exact ?
Oui, c'est tout à fait bien formulé.
Ah, je suis très fier de moi. Et qui hébergera la première instance ? Donc c'est qui hébergera le premier service ? Parce que c'est un service en ligne, donc il faut un serveur pour l'héberger. Donc le serveur, c'est déjà de trouver le serveur, donc avoir un serveur chez lui ou alors le louer. Et puis il s'agit de le maintenir, etc. Donc qui hébergera la première instance ?
Alors aujourd'hui, on a une instance qui existe, qui est hébergée à l'URL benevalibre.org, qui est sur les machines de CLIS 21. Donc là, en l'occurrence, c'est une machine qui est physiquement présente chez OVH. Et nous, là, on est un petit peu en phase, on va dire, de test, consolidation, etc. Et l'idée, c'est qu'à partir de septembre, on va chercher, à passer dans une seconde phase, qui va être une phase de décennage. En s'appuyant par exemple sur des chatons, en s'appuyant par exemple sur Framasoft. Framasoft fait partie des organisations qui étaient présentes au comité de pilotage.
Tout
et qui sont intéressées par ce genre de choses. Et donc il faudra qu'on voit avec eux comment on organise ça. C'est les deux axes, privilégiés aujourd'hui.
C'est bien que tu aies rappelé que Framasoft, effectivement, ça fait partie du COPIL. C'est l'un des partenaires opérationnels et il était intéressé à ce projet parce que les chatons, donc les hébergeurs autonomes, transparents, non ouverts et solidaires, pourraient effectivement proposer le service Benevalibre parmi les autres services offerts. Et donc, ça permet de décentraliser effectivement le service et d'éviter l'effet monopolisation qu'on combat.
Oui, tout à fait. Oui. Et puis au-delà de ça, Framasoft est engagé dans l'éducation populaire. Et c'est un projet qui est né autour d'organismes d'éducation populaire. Ça, c'était le CRAGEP de Bourgogne-Franche-Comté. Autre chose aussi, Framasoft, pour ses besoins propres, a un petit outil de collecte de bénévolat. Je pense que ça peut les intéresser d'utiliser ce Benevalibre dans le futur.
Tout à fait. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions que je voulais poser. Est-ce que Fred voulait peut-être poser une question ?
Non, je n'ai pas de questions à poser. Peut-être des précisions déjà pour, comme ça a été un petit peu dit, mais là c'est une phase de test. Hein, donc le projet n'est pas encore en phase, on va dire, de production. Donc les associations qui vont éventuellement, vous voudrez faire des tests ou des retours quand ils se connectent sur le site Benevalibre. N'hésitez pas à faire un retour donc à CLIS 21, au porteur du projet. Et deuxième point, simplement saluer quand même aussi le travail important qui a été mené par Laurent Costi, hein, membre du conseil d'administration de l'April et qui faisait partie de la CRAGEP Bourgogne-Franche-Comté.
Unité régionale des associations de jeunesse et d'éducation populaire.
Merci Isa, parfait. Et donc Laurent qui a été vraiment le porteur de ce projet depuis de nombreuses années. Voilà, c'était les seuls points que je souhaitais ajouter.
Oui, donc parmi les objectifs de l'April, il y a la promotion du logiciel libre auprès de publics différents, dont les associations. Et c'est pour cette raison que le groupe de travail Libre Association a été créé. Et Laurent, justement, est animateur de ce groupe qui est, entre autres, à l'initiative de ce projet. François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu souhaites rajouter, une question que je ne t'ai pas posée, mais auquel tu aurais aimé y répondre ?
Non, je veux juste rappeler que voilà, si ça intéresse des gens, le projet il est sur benevalibre.org. Donc ça c'est le site figuratif avec un lien vers l'application. Et puis bah, les discussions sont bienvenues, par exemple sur libreassociation@sapril.org. Voilà.
On mettra toutes les références sur la page dédiée à l'émission d'aujourd'hui. Merci encore d'avoir été avec nous, François.
Ok, au revoir.
Au revoir.
Eh bien, c'était la chronique donc Le Libre fait sa com, consacrée donc au projet Bénévalibre, Libre, donc avec François Poulain et Isabella Vanni. Merci Isabella, bonne journée.
De même, merci à vous.
Alors, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Helios par Ramos et on se retrouve juste après.
Cause commune, cause-commune.fm.
Nous venons d'écouter Helios par Ramos, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons aborder le sujet suivant. Une lecture d'informations et de mise en perspective de la philosophie GNU, projet fondateur du logiciel libre. C'est la chronique Partagez bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et membre du conseil d'administration de l'April. Pour cette nouvelle chronique, Véronique nous commande de nouveau un texte de Richard Stallman intitulé « En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre ?» chronique enregistrée il y a quelques jours. On se retrouve juste après. Aujourd'hui, je suis avec Véronique Bonnet, professeure de philosophie, vice-présidente de l'April, pour sa chronique Partagez bon. Alors, bonjour Véronique.
Bonjour Fred.
Alors, de quel texte de Richard Stallman vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors, je vais parler d'un texte qui a été traduit en français par « En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre. Ce texte a été intégré à la philosophie GNU en 2016. Le titre initial est très percutant. Why open source misses the point? Alors, misses the point, c'est-à-dire est à côté de la plaque, ne voit pas à quel point la finalité du logiciel libre est essentielle, c'est la liberté. Alors, pourquoi ce texte est-il très important dans la philosophie GNU? Parce qu'il répond à la fonction de la philosophie GNU qui allait au fond des définitions, puisqu'il faut éviter les malentendus, parce que les malentendus se poursuivent et ont tendance à se pérenniser, malheureusement, et donc il faut les lever. Alors c'est vrai qu'il m'est arrivé récemment d'interroger un député, et je lui avais demandé quelle était la place de l'informatique libre dans la recherche en Europe, et lui, il m'avait répondu « Ah oui, l'informatique ouverte ». Et c'est vrai que c'était quand même assez énervant de la part d'un représentant du peuple français. Et je pense que donc, ce texte-là, travaillé aujourd'hui, permet de bien faire la différence entre ce que c'est que parler d'un code source ouvert et ce que c'est que de parler d'un projet, qui est un projet collectif, qui est un projet humaniste et qui vise la liberté. Alors pour le dire en un mot, c'est vrai que dans ce texte, Richard montre que le free software vise un horizon qui est très éminent, alors qu'en réalité, l'open source dit bien qu'elle ouvre son code, mais c'est un petit peu comme l'arbre qui cache la forêt, c'est un petit peu la partie qui est prise pour le tout. Et ceci est regrettable. Alors on pourrait dire que bien sûr, dans les quatre libertés du free software, il y a la liberté d'utiliser le logiciel, il y a la liberté de l'étudier, et ça suppose que le code source soit ouvert, mais aussi et surtout la liberté de modifier, de redistribuer des copies, modifiées ou non. Et donc quand on dit, me semble-t-il, open et non pas free, au sens de l'autonomie, on est dans une posture qui est réductrice, parce que ouvert s'oppose seulement à fermer, alors que libre s'oppose à confisquer, contraint, imposer dans le registre d'une servitude qui serait technologique. Alors, quelle est la perspective adoptée par Richard Stallman? Comme d'habitude, dans les textes qu'on a déjà eu l'occasion de commenter, il va du plus superficiel au plus important. Et dans cet article, alors je cite, le début de l'article, « En 1998, une partie de la communauté du libre a formé un groupe dissident et a commencé à faire campagne au nom de l'open source. » Alors ça, c'est l'occasion du texte. En effet, on peut penser par exemple à Éric Raymond, qui, en 1999, dans la cathédrale et le bazar, a réduit l'intérêt du logiciel libre à son efficacité, en disant que, par exemple, plus le code était ouvert, plus il y avait d'utilisateurs, plus il y avait de rapports de bugs, et qu'il y ait beaucoup de rapports de bugs permet de corriger, permet une réactivité qui aboutit à des logiciels puissants. Alors, faire campagne, ça, c'est le mot qui va déclencher l'analyse de Richard Stallman. C'est bien un alibi, puisqu'effectivement, comme on est dans un marketing, comme on veut familiariser les cadres au logiciel libre, on va mettre complètement de côté la question du bien et du mal, la question de ce qui est moral, de ce qui est respectueux de l'humain, pour parler simplement des avantages techniques, puisque les cadres, donc selon les promoteurs de ce groupe dissident, n'en ont rien à faire des idées de bien, des idées d'utile à l'humain, puisque on suppose d'eux, ce qui est certainement leur faire injure, qu'ils n'ont pas apprécié ces catégories métaphysiques et ces catégories philosophiques. Donc l'alibi se présente comme intentionné, on fait attention à une cible, On ne va pas parler de liberté à des personnes qui n'en ont rien à faire, comme si elles n'en avaient rien à faire. Et donc on va garder du logiciel libre, simplement, sa dimension technique-pratique. On ne va pas du tout s'embarrasser de considérations éthiques dont on dit qu'elles pourraient lasser, qu'elles pourraient énerver. Et donc la liberté, la dimension de l'autonomie sont versées au magasin des antiquités. Il faut avancer, on n'en a plus rien à faire. Alors le pédagogue qui est Richard Stallman déroule dans son analyse à quel point il ne s'agit pas de parler d'hostilité. Le véritable ennemi, c'est le logiciel propriétaire, mais de manifester un regret que ce mouvement dissident oublie quand même l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs. Alors, un point qui, d'abord, est important, mais non fondamental. Richard parle de différence pratique entre logiciel libre et open source. Alors, je ne vais pas entrer dans des détails techniques, simplement il explique qu'on peut recompiler les codes sources libres pour en faire des exécutables qui fonctionnent, mais qui sont non libres au sens où ils ne visent pas des idéaux, ils ne visent pas une autonomie. Ils visent à ce que ça marche, qu'il n'y ait rien à dire précisément. Alors, deuxième phase qui est déjà un peu plus fondamentale, Richard entre dans des malentendus qui sont courants. Alors bien sûr, on a dit que « free » en anglais était confus, était ambigu, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Richard va montrer que « open » est plus ambigu encore. Parce que si on dit « ouvert », alors c'est vrai que c'est pris au sens d'accessible, si on dit « ouvert », ça peut finir par désigner tout et n'importe quoi. Par exemple, on peut dire « ouvert », ce qui est sans licence, ce qui est participatif, ce qui est transparent, bon, c'est-à-dire une chose qui n'a rien à voir avec une autre chose. Avançant vers du encore plus fondamental, Richard Stallman va montrer que des valeurs différentes peuvent amener à des conclusions similaires. Parce qu'effectivement, les acteurs du free software peuvent très bien écrire des codes très analogues par rapport aux codes des acteurs de l'open source. Mais pour autant, est-ce qu'on peut faire passer au second plan la question de la liberté? Parce qu'un logiciel peut être puissant et fiable, mais être mauvais au sens de mauvais pour l'humain. Parce que si on ne suscite pas chez l'humain des droits à l'autonomie, c'est sûr qu'on entre dans des formes de résignation qui sont préjudiciables, qui sont graves. Alors bien sûr, il peut y avoir efficacité, il peut y avoir ingéniosité, mais c'est au prix de la quête de l'oubli, de la quête de l'autonomie, et donc il y a ici une atteinte à l'humain. Richard Stallman distingue très souvent deux sens du terme « bon » et deux sens du terme « mauvais ».« Bon », ça peut vouloir dire « apte », ça peut vouloir dire « fonctionnel », mais ça peut aussi dire « moral ». Et il y a du fonctionnel qui se moque de la moralité. Bon, « mauvais », ça peut vouloir dire « non fonctionnel », mais ça peut aussi dire « néfaste » pour une coexistence entre des êtres qui sont responsables et qui se font confiance et qui avancent ensemble. Alors, je vais, en guise de conclusion, insister beaucoup sur le dernier point qui est fondamental. C'est ce que Richard Stallman appelle la crainte de la liberté, comme s'il était devenu malpoli ou incongru d'évoquer la liberté qui est la finalité essentielle du free software. Et là, il se réfère à un argument qui est fallacieux, à nouveau un argument fallacieux de l'open source, qui dit que les personnes sont mal à l'aise avec la liberté. Bon, de même que tout à l'heure, il était question de personnes mal à l'aise avec les questions de bien et de mal. Et là, il y a une préconisation forte d'éviter d'entrer dans ce jeu. Il ne faut pas hésiter à choquer intellectuellement en mettant sur la table des notions qui n'ont absolument pas à passer à la trappe. Alors, dans la conclusion, Richard Stallman appelle à une jubilation, à une fierté. Bon, je pense que tu connais, Fred, un film qui s'appelle Les Blues Brothers, je crois.
Comme beaucoup de gens, je connais très bien.
Je connais très bien. Et il y a un moment dans ce film, il y a un moment qui est très joyeux, où la chanson Freedom intervient. Et je dirais qu'il faut surtout pas, si on est militant du free software, faire profil bas. Il faut être dans un tempo, il faut être dans un rythme. Voilà la conclusion de Richard Stallman. Nous devons leur dire que c'est du logiciel libre et qu'il te donne la liberté. Et de manière générale, dire logiciel libre et non pas open source, c'est faire avancer la cause du logiciel libre.
Eh bien, merci Véronique, c'est une très belle conclusion. Alors, évidemment, l'APRIL utilise le terme logiciel libre depuis sa création et même après 1998, au moment où ce terme open source a été réutilisé parce qu'il existait déjà, mais pour décrire autre chose comme tu viens de l'écrire et comme explique très bien Richard dans ce texte qui est donc traduit en français qui s'appelle « En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre ». Les références sont évidemment sur le site de l'APRIL, april.org, et vous le retrouvez aussi sur le site du projet GNU, projet fondateur du logiciel libre, donc gnu.org. C'était la chronique donc, de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'APRIL, chronique intitulée « Partagez les mots ». Je te remercie Véronique et je te souhaite une belle journée.
Belle journée à toi Fred.
Merci.
Donc comme vous l'avez compris, c'était une chronique enregistrée, comme je viens de le dire. Nous allons faire une pause musicale, nous allons écouter Love Theme par Daniel Bautista et on se retrouve juste après.
Cause commune, cause-commune.fm
93.1. Thank you.
Nous venons d'écouter Love Theme par Daniel Bautista, disponible sous licence Creative Commons Partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Passons maintenant au sujet suivant. Sujet suivant, interview d'Antoine Bardelli, qui est designer graphique. Son site web, c'est bardelli.fr avec deux L, et également membre bénévole de l'April, sur laquelle il a apporté de nombreuses contributions graphiques. Et avec Antoine, nous allons parler de son expérience professionnelle sur les outils libres pour l'image. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour.
Alors d'abord, j'ai envie de te demander qui es-tu, ton parcours, et que fais-tu donc à titre professionnel et puis à titre bénévole également?
Alors, moi, je suis designer graphique, je suis adhérent et bénévole à l'April. Alors, moi, j'ai été formé en école d'art, puis j'ai travaillé comme directeur artistique en agence de communication, d'agence web, pendant une quinzaine d'années. J'étais responsable de studio graphique, aussi quelques années, et après, je me suis mis à mon compte. Alors, à titre professionnel, je réalise des prestations de design graphique et de communication pour des clients institutionnels, des entreprises privées, des associations. Je pense à des images de marque, des documents imprimés, des mises en page, de rapports institutionnels, quelques sites web et un peu d'illustration. Et à titre bénévole, j'interviens essentiellement pour l'April depuis une dizaine d'années comme graphiste au sein du groupe Sensibilisation. Alors j'interviens aussi ponctuellement pour quelques autres associations sur ma zone de résidence Montpellier.
D'accord, écoute, c'est une belle introduction et je vais en profiter pour répondre à la question du quiz. La deuxième question que j'avais posée en début d'émission, je demandais dans une précédente émission, donc Isabella Vanni t'avait interviewé sur la genèse d'un projet de sensibilisation à l'April. La question c'était quel était cet outil de communication? J'avais indiqué qu'il était constitué de 8 panneaux. Cet outil de communication, c'est l'Expo Libre. Donc le site c'est expolibre.org et vous pouvez retrouver l'interview sur le site de l'April, donc april.org, dans les podcasts de l'émission. C'est l'émission du 7 mai 2019. Voilà. Ça, c'était la réponse à la deuxième question du quiz. Et on va revenir donc à l'interview. Alors, donc, dans le cadre de ton activité professionnelle, quels outils utilises-tu? Alors, libre ou pas libre, c'est justement l'intérêt aussi de voir un petit peu, en fonction peut-être des besoins, des pratiques, des clients, quelle est la palette d'outils que tu utilises?
Alors, dans ma profession, j'utilise beaucoup de logiciels. Alors qu'il y en a des libres et puis il y en a des propriétaires. Voilà, alors ce que je vais peut-être déjà faire, c'est présenter un petit peu les logiciels libres que j'utilise. Et puis après, je vais peut-être présenter un peu les logiciels propriétaires en fonction de ce que j'utilise. Alors, il y a déjà Inkscape, qui est un logiciel de dessin vectoriel, qui est un logiciel libre, qui est tout particulièrement adapté lorsque le travail est destiné au numérique, tel que le design web, par exemple. Et moi, j'utilise aussi un peu pour l'illustration. Ça, c'est pour le dessin vectoriel. Après, j'utilise aussi, toujours en dessin vectoriel, le logiciel SK1, qui est un projet de logiciel vectoriel, mais qui prend en charge le CMJN, c'est-à-dire la colorimétrie qui est utilisée en impression. Et il supporte beaucoup de formats d'import-export. Après, j'utilise aussi Darktable, qui est un logiciel pour retoucher les chromis des photos, surtout la qualité globale des photographies. On peut aussi gérer des ensembles de photographies. Après, j'utilise Krita. Tout ça, c'est des logiciels libres, pour tout ce qui touche au photomontage. Alors ça, c'est un logiciel qui a beaucoup évolué ces dernières années. Avant, j'utilisais The Gimp. Mais Krita, maintenant, supporte ce CMJN nativement. Il explique mon choix de travailler avec ce logiciel plus précisément. Après, il y a des personnes qui utilisent aussi ce logiciel pour la peinture numérique, avec une tablette. Ce n'est pas mon cas.
Parce que Krita, c'est, si je me souviens bien, avant tout un outil de dessin, en fait.
Oui, on peut faire de la peinture, mais il gère les calques, il va gérer les photomontages.
D'accord.
Et on peut travailler avec des blocs qui se superposent, mettre du texte, des choses comme ça. Donc ça va largement au-delà de la chromie. C'est vraiment deux univers différents, on va dire, avec des fonctions qui sont plus élaborées sur Darktable que sur Krita. Donc on peut utiliser les deux en fonction de ce qu'on a à faire. Et ça permet de préparer tous les visuels qui vont être utilisés dans le design graphique. Mais au final, quand j'ai utilisé de la faire la publication, j'utilise Cribus. Cribus, qui est un logiciel de PAO, qui permet de faire des mises en page, gérer les textes, la typographie, et surtout préparer des fichiers PDF conformes pour l'impression chez les imprimeurs. Alors c'est un logiciel indispensable pour travailler dans la chaîne graphique. Donc, on ne peut pas faire le PAO libre sans ce logiciel pratiquement.
Alors, la PAO, c'est la publication assistée par ordinateur.
Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça c'est le logiciel que j'utilise en logiciel libre dans mon cadre de mon activité, mais en plus des logiciels propriétaires, et ça c'est moi qui gère en fonction du projet, comment je vais m'organiser et quel logiciel je vais choisir pour faire le travail.
D'accord. Alors, donc, avant de parler de la partie logiciel propriétaire, donc là, tu as cité quand même, si je ne me trompe pas, donc 6 logiciels libres. Donc, on mettra évidemment les références sur le site de l'April.
Oui, bien sûr.
Parce que, évidemment, c'est des noms que les gens ne connaissent pas forcément et qu'on découvre. J'ai une petite question déjà. Est-ce que ces logiciels sont tous ou pour la plupart multiplateformes ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont disponibles sur différents environnements ?
Oui. Alors, c'est globalement, ils sont tous multiplateformes.
Alors, ils sont tous multiplateformes, donc c'est important.
On peut travailler sous Linux, sous Macintosh, sous Windows. Alors, pour les autres versions, FreeBSD, choses comme ça, je ne sais pas.
Mais déjà, bon, ils sont disponibles au moins sur système GNU Linux, oui. Système entièrement libre, mais voilà. Les gens peuvent les utiliser aussi sur la plateforme qu'ils utilisent actuellement, même si c'est une plateforme qui n'est pas libre.
Voilà, c'est ça.
Et avec ces logiciels, globalement, ces logiciels libres, globalement, tu arrives à traiter la plupart des demandes, y compris le point essentiel qui a été sans doute problématique il y a quelques années, qui est la partie finale, c'est-à-dire l'impression, la chaîne d'impression. Tu as travaillé avec des imprimeurs professionnels.
Oui, alors, on peut tout faire.
Oui.
Voilà, maintenant, on a des projets qui ne sont pas toujours adaptés pour du logiciel libre.
Alors, bon, prenons des exemples, alors.
Alors, ben, déjà, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs cas de figure. Ça dépend du client, ça dépend du prestataire d'impression, ça dépend s'il va y avoir beaucoup d'échanges entre les logiciels, on va dire. S'il y a des fonctions qui sont présentes pour réaliser telle ou telle tâche. Et surtout, la chose essentielle, c'est dans quel contexte on travaille. Si on travaille avec des sous-traitants, si on travaille avec des clients qui vont vouloir les sources, si on veut avec des clients qui vont eux-mêmes les passer à d'autres personnes, qui ont des sous-traitants en cascade, par exemple. Par exemple, avec des agences, c'est pratiquement impossible de travailler avec ces voilà, très clairement.
Parce que ces agences travaillent avec un... Je suppose que c'est un logiciel d'Adobe.
Voilà, en fait, Adobe ou Adobe est l'acteur principal sur ce marché depuis pratiquement 20 ans. Il y a des logiciels historiques qui sont très implantés sur la chaîne graphique, qui gèrent tout le processus de la création jusqu'à l'impression. Les logiciels qui sont organisés en suite logiciels, ils ont des interfaces qui sont homogènes, et les échanges de fichiers entre logiciels sont très bien pris en charge. Tous les logiciels supportent le CMJN, malheureusement les formats de fichiers sont fermés. Alors, de l'autre côté, le logiciel libre, on peut avoir des fonctionnalités indispensables qui sont présentes, mais on peut avoir des fonctions facilitatrices qui ne sont pas toujours, pour exporter facilement certains éléments, ou pour faire des retouches très précises, etc. Donc ça dépend des logiciels. Et puis, il y a aussi une chose qui est particulière au logiciel libre, c'est que ces différents projets sont portés par différentes structures. Donc ils n'ont pas un objectif commun de créer un processus de logiciel qui s'intègre dans la chaîne graphique. Chacun a sa stratégie, ses interfaces, et là ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien connaître chaque logiciel, pour pouvoir faire des échanges de fichiers entre les logiciels et anticiper tout ce qui va se produire pour la fin, c'est-à-dire pour livrer le fichier à l'imprimeur.
Oui, contrairement à Adobe où c'est un ensemble.
Voilà.
Voilà. Okay, voilà. Donc là, c'est des outils différents qui doivent s'intégrer ensemble et qui nécessitent peut-être plus de travail initial de formation, je suppose, ou pas du tout. Ou c'est pareil que la prise en compte d'Adobe.
Ça nécessite de connaître les logiciels, déjà, les logiciels libres. Et puis de quand même bien les connaître pour pouvoir bien anticiper le problème qui peut se présenter à mi-chemin, on va dire, pour pouvoir évaluer si c'est un des projets qui peuvent être faits avec des logiciels libres à 100% ou à 50% ou pas du tout.
D'accord. Et dans ta pratique quotidienne, est-ce que tu as une idée approximative, hein, même, de la répartition des projets que tu fais, alors on va dire, totalement logiciel libre et des projets où... t'es obligé pour des contraintes que tu viens d'expliquer, hein, que ce soit travailler avec des agences ou le demande client ou des problématiques techniques. Est-ce que tu as une idée de la répartition entre les deux?
Je pense qu'on est à 30% à peu près de logiciels libres sur les interventions.
D'accord. Quand tu as commencé ta carrière, enfin d'indépendant ou en tout cas de professionnel, tu ne connaissais pas, je suppose. Est-ce que tu connaissais le logiciel libre quand tu as commencé?
Non, parce que quand j'ai commencé, c'était il y a 20 ans. Donc on va dire qu'il n'y avait pas beaucoup de logiciels libres spécialisés dans la PAO.
Donc tu es passé de 0 à 30%, pour, voilà, on va dire.
Voilà, bah c'est quand même pas mal.
Non, mais c'est très bien, justement. Et donc, et par rapport à ça, par rapport... parce que là, j'ai eu l'occasion d'utiliser certains des logiciels que tu cites et qui me paraissent vraiment assez magnifiques. Hein. Quelle est l'évolution? Est-ce que tu penses que cette évolution, finalement, à terme, tu arriveras à produire peut-être des prestations quasiment à 100% avec des logiciels libres? Combien de temps ça va prendre? Et est-ce qu'il y a des points de blocage vraiment... qui sont liés peut-être au format de fichier ou au monopole de fait, quelque part, d'Adobe dans le monde, notamment des agences?
Alors, je pense que c'est le monopole qui est le plus difficile à contrer, puisque les fonctionnalités, on va dire, les fonctionnalités qui permettent de tout faire, on les a, globalement. Il y a un petit peu de travail à faire sur les interfaces au niveau des logiciels libres pour aller un peu plus vite sur la production. Donc, ça veut dire que si on n'a pas beaucoup de délais, c'est parfois un peu difficile de se mettre sur un logiciel libre parce que l'interface est un peu différente et puis des fois il y a plus de clics à faire ou des choses comme ça. Mais la difficulté majeure, ça reste le contexte du monde des agences, etc., des fournisseurs et puis même déjà des fois des clients qui ont les logiciels Adobe et qui veulent qu'on leur fournisse les sources dans ces formats.
D'accord. Et aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de fournir les sources, donc sources format Adobe, à partir de logiciels libres. Pour l'instant, c'est un point de blocage, ça.
Exporter dans les formats d'Adobe, ça reste un petit peu difficile, je veux dire.
D'accord.
On exporte généralement, à la finalité, on exporte du PDF, et à la fin, on rassemble les sources, et on donne les sources. En fonction du contrat, bien entendu. Hein.
D'accord, ok.
Mais bon, aujourd'hui, on peut quand même créer intégralement un magazine, affiches, des brochures, avec des logiciels libres, il n'y a pas de souci. Par exemple, un étudiant aujourd'hui peut apprendre avec des logiciels libres. Bon, en plus des logiciels propriétaires.
Ouais. Et il y a des formations spécialisées. Par exemple, à Lyon, il y a la formation Colibre, oui. Où ils sont spécialisés, donc outils de communication et de graphisme, logiciels libres.
Oui, ceci dit, il faut rester quand même assez cohérent sur le marché. Il n'y a pas une offre d'emploi où on ne demande pas de maîtriser les logiciels d'Adobe. Hein. C'est bien de connaître les logiciels libres, mais pour un jeune qui sort, c'est très bien de connaître les deux, mais il faut quand même connaître les autres.
D'accord.
Malheureusement.
Ok. Bon, en tout cas, la situation quand même évolue parce qu'avec la création de nouveaux et la montée en puissance de nouveaux logiciels que tu as cités, donc Inkscape, SK1, Darktable, Krita, The Gimp, Scribus. Alors, on mettra les références sur le site de l'April pour que vous puissiez aller voir. Donc april.org. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, soit sur les logiciels, soit sur ta propre activité?
Oui, bah après, je pense qu'il y a quand même une évolution qui est possible. Dans le sens où aujourd'hui, Adobe a un système financier qui est de l'abonnement, qui coûte quand même plus de 450 € par an. Donc ça veut dire que les personnes qui font la PO que deux fois dans l'année ou trois fois dans l'année ont quand même fortement intérêt à se tourner vers des logiciels libres pour résoudre les problèmes.
Tout à fait.
Donc, et puis il y a une autre chose, c'est que dans ce secteur, ça bouge un petit peu en ce moment, depuis 4-5 ans. Il y a des petits acteurs qui sont un peu agressifs sur les prix. Ils ont vu qu'Adobe était très cher et ça devrait quand même faire un peu bouger les lignes. Donc ça veut dire qu'il y aura plus d'acteurs dans quelques années.
D'accord.
Qui est bon quand même dans le sens où ça peut créer de l'ouverture. Parce qu'effectivement, il faudra quand même échanger les formats de fichiers. Donc on peut supposer que ça va s'améliorer.
Ok, bah écoute, on l'espère et en tout cas, on te félicite toi pour participer à cette amélioration, vu que tu, évidemment, à travers ton activité professionnelle, tu sensibilises aussi les clients à ces questions-là, et puis aussi pour tes contributions, on va dire bénévoles, hein, que ce soit à l'April ou autour de Montpellier, comme tu l'as cité tout à l'heure. Bah, écoute Antoine, je te remercie et puis je te souhaite de passer une belle journée.
Ça marche, merci.
À bientôt. Alors donc c'était l'interview donc d'Antoine Bardelli, donc qui est designer graphique. Son site web c'est bardelli.fr et il est également membre bénévole à l'April à laquelle il a participé à de nombreuses contributions de sensibilisation et notamment l'Expo Libre, donc expolibre.org. Nous allons plutôt faire une pause musicale avant d'aborder le dernier sujet. Je sais que vous l'attendez parce que le chevalier Vincent est en train de s'installer. On va savoir enfin le résultat de sa quête. Donc on va écouter Mirage Actuel par les journées de création musicale Zik Libre en Bib.
Cause commune, cause-commune.fm
93.1.
Thank you.
habite au fond du désert, là où le ciel est bleu, si près de la mer. Tu reviens de loin, d'ici, de là-bas, de quelques chemins, par là. Là où tu t'endors, mirage, rien de cela n'est vrai. And if it's the end in suffering, then try to push it in to tomorrow. And if it's the end in love again, then make it burn like the sun under your feet. Tout est pas près de toi, un puits de lumière, un peuple d'or vivant, le frisson des abusés dès lors rêvant d'horizon. And if it's the end in suffering, then try to push it in to tomorrow. And if it's the
Nous venons d'écouter Mirage Actuel par les journées de création musicale Zik, libre en bib, disponible sous licence Creative Commons Partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Et la semaine prochaine, donc mardi 9 juillet 2019, vous en saurez plus sur les journées de création musicale Zik, libre en bib, car nous aurons l'interview d'une des personnes responsables de ces événements. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je vais maintenant répondre à la question, la première question du quiz, qui était donc lors de l'émission du 25 juin 2019, nous avons parlé de bureautique libre, de LibreOffice. La question était, comment s'appelait l'association francophone de promotion et de défense de la bureautique libre et notamment de LibreOffice? Eh bien, le nom de l'association, c'est La Mouette. Lamouette.org, La Mouette tout attaché. Alors si vous posez la question de savoir pourquoi ça s'appelle La Mouette, de mémoire, mais je n'ai pas vérifié précisément, mais dans les premiers logos d'OpenOffice.org, il y avait deux mouettes qui étaient sur ce logo-là. Et donc c'est le nom, l'une des raisons, ou même la raison principale, du nom de cette association, Lamouette.org, donc autour donc, de la bureautique libre, et aujourd'hui plus principalement évidemment de LibreOffice. Nous allons maintenant aborder notre dernier sujet. Alors, choses vues, entendues et vécues autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes, c'est la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame, qui est par ailleurs bénévole à l'April. Alors, c'est une chronique en deux étapes, parce que la semaine dernière, tu avais commencé ta chronique consacrée au thème de la migration vers le logiciel libre, donc de la FPH, la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme, dont les locaux sont dans le 11e arrondissement de Paris. Tu avais intitulé ça « La quête du libre », une histoire commencée il y a plus de 15 ans. Donc bref résumé de l'épisode précédent, la première partie était consacrée à la migration des logiciels bureautiques sous Microsoft Windows, avec notamment le courrier-leur, le navigateur web et la bureautique. Et je vais reposer la question sur laquelle s'était donc achevée notre première partie. Qu'en est-il de la migration vers un système d'exploitation libre ?
Ah oui, bien sûr, l'utilisation de logiciels libres sous Windows pouvait être une première étape dans notre quête. On ne devait pas se reposer sur nos lauriers, et puis il fallait continuer de l'avant. Et le passage à une distribution libre, c'était l'étape suivante. Mais là, on a deux nouveaux obstacles qui sont dressés sur notre route. Alors le premier obstacle, il est bien connu de tous ceux qui ont fait de l'installation sur du matériel, c'est les problèmes d'incompatibilité. Obstacle qu'il faut rappeler est dû au fait que les constructeurs ne fournissent pas de pilote libre, ne testent pas pour les distributions libres. Donc on se retrouve souvent avec des problèmes de carte son qui ne marche pas ou de choses comme ça. Donc sur cet obstacle, moi j'y reviendrai par la suite pour dire comment on l'a affronté. Mais le deuxième obstacle qui s'est dressé sur notre route et qui nous a retardé pour plusieurs années, c'était le logiciel Skype.
Alors Skype, donc le logiciel de téléphonie, mais ce logiciel aujourd'hui il est dépassé, et puis il y a des alternatives libres qui existent, non ?
Oui, complètement. Maintenant la situation est différente, mais à l'époque, je parle du milieu des années 2000, Skype ça a vraiment été une vraie révolution. Ça a rendu accessible la communication audio par ordinateur, donc à très faible coût, parce que Skype était gratuit. Et comme pour des structures comme la FEH qui travaille beaucoup à l'international, le coût des télécommunications était un poste budgétaire important. Et donc là, ça a vraiment permis de faciliter la communication à peu de frais. Et d'ailleurs, casques, écouteurs ont fleuri dans les bureaux très rapidement. Tout le monde faisait des conférences Skype. Mais du coup, c'était difficilement envisageable d'installer un système qui n'aurait pas Skype dessus. Là, je n'aurais pas pu passer ça à la fondation. Alors, heureusement, on va dire, pour notre quête, Skype a sorti par la suite une version pour GNU Linux, mais qui n'était pas libre, mais quand même une version installable. Elle a mis un peu de temps à être opérationnelle. Souvent, moi, j'ai eu des problèmes avec les cartes son. Et c'est vers la fin des années 2000 que le logiciel était suffisamment intégré dans les dépôts non libres des distributions. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment qu'à la fin des années 2000 que nous avons levé cet obstacle majeur de Skype.
Donc, à la fin des années 2000, la possibilité d'installer un environnement libre, certes, en ajoutant le logiciel privateur Skype, s'est posée. Et donc, on revient, je suppose, à ton premier obstacle que tu évoquais, celui de la compatibilité matérielle.
Voilà. Donc, celui-là, on l'a résolu tout simplement en y mettant le budget. Puisque nous avons renouvelé tous les postes d'un coup. C'est une dizaine de postes, c'est pas non plus des budgets faramineux. Et en faisant appel à un prestataire qui nous garantissait la compatibilité du matériel, qui avait déjà testé ça sur des distributions libres. Alors, ce renouvellement, d'ailleurs, a eu deux avantages. D'une part, on a disposé d'un parc homogène. Ça facilite les interventions. S'il y en a un qui marche plus, on peut changer les pièces d'un appareil à un autre. Et ensuite, l'autre avantage, c'est que nous avons lié, en fait, le basculement à une distribution GNU Linux avec l'arrivée de ce nouveau matériel. Matériel qui était évidemment plus performant et surtout d'ailleurs beaucoup plus silencieux. Et là, donc il y a eu un vrai gain de travail qui a été associé à ce nouveau système d'exploitation. Alors comme je dis, c'est un peu sournois parce que je pense qu'avec n'importe quel système, on aurait eu un confort.
Mais là, le nouveau matériel plus performant, le confort a été augmenté quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive, mais là, on l'a associé avec le changement de système. Et donc ça, c'est vraiment passé très facilement. Ce qui nous a également aidé au début des années 2010, ça a été la généralisation, on va dire, des approches client-serveur, c'est-à-dire d'avoir plutôt de grosses machines et les postes qui interrogent ces machines. Alors, l'exemple, c'est l'impression. Nous sommes dotés de deux grosses imprimantes qui étaient libres puisqu'elles utilisaient le langage d'impression qui s'appelle PostScript, qui nous a permis de remplacer toutes les petites imprimantes qui, elles, nous typiquement posaient problème de compatibilité de matériel. Et même chose pour la question des logiciels de comptabilité. On était obligé de se doter d'un serveur sous Windows avec ces logiciels privateurs pour lesquels on n'avait pas d'alternative. alternative. Mais du coup, on n'avait plus à installer ces logiciels sur les postes du comptable. Et ça, cette contrainte levée, ça nous a facilité la migration du poste du comptable, justement.
Alors donc, le problème du comptable, entre guillemets, du poste du comptable réglé, donc tous les postes ensuite ont basculé sur un système libre, et en l'occurrence un système GNU Linux.
Alors oui, alors donc ça s'est fait en deux vagues. En 2010, on l'a fait uniquement pour les personnes utilisant uniquement les logiciels bureautiques et Skype. Et ensuite, en fin 2016, on l'a, ça y est, tous les postes fixes ont été faits. Et d'ailleurs, bon, en 2016, comme les ordinateurs de 2010 étaient amortis, on a encore acheté une série d'ordinateurs encore plus petits et plus silencieux. Et là, à cette occasion, nous avons installé comme distribution GNU Linux Ubuntu. Alors, c'est vrai que moi, pour des raisons personnelles et affectives, je suis attaché à une distribution Mageia, mais qui est moins répandue. Et comme il est déjà difficile d'être minoritaire, alors si en plus on est minoritaire parmi les minoritaires, ça complique un peu. Par exemple, quand on parle des logiciels privateurs présents sur GNU Linux, ils vont faire l'effort d'avoir un paquet pour Ubuntu souvent, mais pas pour les autres distributions. Donc là, c'était une manière pratique de prendre la distribution GNU Linux la plus répandue à ce moment-là. Alors j'ai parlé des postes fixes parce que là il reste toujours un point noir. Ce sont les ordinateurs portables. Même chose, la compatibilité du matériel est plus dure à assurer, même si on voit apparaître des prestataires qui proposent également des portables avec des distributions Linux, GNU Linux installées. Mais c'est vrai que le portable, on est toujours lié aux chaînes de production. Il y avait le premier prestataire qui avait fait nos postes fixes, qui disait faire un poste fixe, tout le monde peut le faire avec un tournevis et puis en prenant les composants. Les portables, c'est beaucoup plus des boîtes noires et c'est plus complexe. L'autre problème du portable, c'est comme juste par définition ça se porte, les gens vont partir avec et là je vais pas être à proximité pour pouvoir les aider. S'ils sont chez un partenaire, ils doivent installer l'imprimante chez le partenaire, ça peut poser problème. Donc là c'est plus difficile, mais c'est plus progressif et c'est plus sur la base du volontariat. Souvent les gens, quand ils ont un poste fixe ou GNU Linux et puis qu'ils ont un portable juste pour les déplacements, là c'est plus facile pour eux d'utiliser les deux.
D'accord. Et quand tu parles donc du choix d'Ubuntu pour permettre l'ajout de logiciels privateurs plus facilement, est-ce que c'est encore Skype ou c'est d'autres logiciels privateurs qui sont installés?
Alors, on nous arrive d'avoir des demandes, toujours d'ailleurs dans la question de vidéoconférence. Je vois là, en ce moment, la mode, c'est Zoom. Et donc, effectivement, parfois, quand c'est un partenaire qui dit « on va faire une visioconférence Zoom », comme c'est le partenaire qui l'organise, c'est toujours compliqué de dire qu'on n'en veut pas. Mais là, Zoom va proposer un paquet. On a eu une même question qui s'est posée avec un logiciel qui est TeamViewer, qui est un logiciel de prise en main à distance. Et même chose, il y avait les paquets pour Ubuntu, mais pas sans pour Ubuntu, mais c'est vrai que c'était eux s'installaient vraiment sans problème. Enfin, j'ai pas testé dans les autres configurations.
Mais... D'accord. Donc en fait, la quête, elle est jamais achevée finalement.
Non, elle le sera jamais. Hein. De toute façon, faut pas se précipiter, faut prendre le temps d'avancer. Je crois que ma conclusion personnelle, c'est qu'il faut laisser le temps au temps. Il y a d'abord le temps aux alternatives libres de se développer. De toute façon, les moyens sont plus limités dans le monde du logiciel libre, donc c'est normal que certaines choses soient pas opérationnelles immédiatement. Ensuite, il y a le temps de le voir se diffuser parmi les acteurs. Bon, je vois quand même une nette différence avec les partenaires que nous avons. Maintenant, leur parler de logiciel libre, on n'est plus des Mohicans. Enfin, ils connaissent ce que c'est. Et je vois débarquer des gens qui ont déjà du logiciel libre sur leur poste. Et puis, le temps d'appropriation et de s'approprier les usages du logiciel libre.
D'accord, bah, enquête jamais achevée, donc tu as encore du travail à faire et l'espoir est évidemment présent. Tu parlais tout à l'heure des portables, je vais juste citer, en tout cas, indiquer qu'il y a de plus en plus de structures qui proposent des portables en reconditionnement et souvent avec du logiciel libre préinstallé. Donc vous trouvez ça sur Internet dans toutes les régions et donc ce qui permet de récupérer des matériels anciens mais qui fonctionnent toujours. Et concernant plus globalement la question des distributions GNU Linux, donc des distributions libres, je renvoie les personnes qui écoutent l'émission au podcast de l'émission du 22 janvier 2019. Nous avions notamment quelqu'un d'Ubuntu, une personne de Debian et une personne de Magia, qui est ton système libre préféré. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Vincent ?
Oui, juste dire qu'on n'est jamais quand même à l'abri d'une régression. C'est-à-dire qu'on a toujours du logiciel privateur quelque part dans nos machines. Toujours, effectivement, au niveau du matériel. Parfois, on trouve du matériel compatible, puis un an après, il est plus disponible. On l'a vu aussi, nous, avec les imprimantes, où tout d'un coup, on a eu de très belles imprimantes nouvelles, mais il a fallu installer un logiciel spécifique de Xerox, en l'occurrence. Donc, il faut être toujours vigilant et rien malheureusement, n'est jamais acquis.
D'accord. Eh bien, écoute, merci Vincent. Je te souhaite une belle fin de journée.
Merci.
Alors, nous allons terminer par quelques annonces. Dans la partie annonce, vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019 à Montpellier se déroulera la GUL Academy. Alors GUL, c'est pour groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Nous en avons déjà parlé dans une émission Libre à vous. Alors j'ai pas en tête la date du podcast, mais c'est disponible sur le site de l'April.org. Donc là, la GUL Academy, c'est organisé par justement un GUL local qui s'appelle Montpel Libre pour un temps d'échange entre personnes membres des GUL. Donc un temps d'échange collaboratif pour savoir comment créer une nouvelle association, un nouveau groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices, comment échanger, comment sensibiliser. Donc c'est les vendredis 5 et samedi 6 juillet 2019. Le site c'est montpellibre.fr, donc Montpel Libre avec deux L. Bien sûr les références sont sur le site de l'April et sur le site de l'agenda du Libre, agendadulibre.org. Deuxième événement, alors ça se passe à Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis, ça s'appelle le Battle Mesh, du lundi 8 juillet au dimanche 14 juillet 2019. Alors Battle Mesh, on peut se demander c'est quoi ce truc ? Eh bien c'est une rencontre de passionnés du monde entier autour des protocoles de réseau mesh sans fil. Alors je vous avoue que je ne suis pas du tout un expert de ce sujet-là. Mais en gros, un réseau mesh ou réseau maillé, c'est un réseau à l'intérieur duquel l'information circule d'un point à l'autre en ne suivant pas un chemin fixe et prédéterminé, car chacun des nœuds du réseau est lié aux autres de manière non hiérarchique et est donc libre de choisir le parcours de l'information de manière dynamique, par exemple en prenant en compte l'état du réseau et préférant un chemin long mais libre à des nœuds proches mais surchargés. La communication sans fil entre les différents nœuds du réseau rend l'exercice du mesh, du réseau maillé, plus délicat, avec par exemple des difficultés pour augmenter la taille du réseau. Donc cette description, je l'ai trouvée sur le site d'un des partenaires qui est la Fédération des fournisseurs d'accès Internet associatif. Donc ce Battle Mesh qui se passe à Saint-Denis, c'est pendant plusieurs jours, 6 jours, la rencontre de passionnés autour de ces sujets-là. Mais vous pouvez aussi aller les rencontrer pour en discuter avec eux. Et il faut savoir que ces réseaux-là sont utilisés par exemple dans le cadre de catastrophes naturelles ou de crises pour constituer des solutions pour garder le contact avec des personnes sur le terrain. Ils intéressent aussi les gens qui craignent tout simplement la cybersurveillance. Vous avez aussi des villes et des communautés dans le monde qui ont mis en place ces réseaux maillés, par exemple pour desservir un quartier avec un seul point de contact aux fournisseurs d'accès, ou pour équiper tout simplement des villages en milieu rural par exemple. Et donc avec ou sans accès à Internet, ces personnes reliées peuvent alors discuter avec elles comme une sorte de messagerie instantanée. Donc voilà, c'est quelque chose de très important même si ça paraît très technique et très compliqué, donc je vous encourage à aller voir. Donc Battle Mesh, les références, le site c'est battlemesh.org, les références sont également aussi sur le site de l'April et sur le site de l'agenda du Libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve donc en direct mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien.